Livre cinquième, chapitre 4. La pitié. Geôlier, ouvre-nous ! Geôlier, ouvre-nous ! Rhodis et Myrtocléia frappaient à la porte fermée. La porte s'entr'ouvrit. Qu'est-ce que vous voulez ?
Voir notre ami, dit Myrto, voir Crisis, la pauvre Crisis qui est morte ce matin.
Ce n'est pas permis, allez-vous-en.
Oh, laisse-nous entrer, on ne le saura pas, nous ne le dirons pas. C'était notre ami, laisse-nous la revoir, nous sortirons vite, nous ne ferons pas de bruit.
Et si je suis pris, mes petites filles ? Si je suis puni à cause de vous, ce n'est pas vous qui paierez l'amende.
Tu ne seras pas pris, tu es seul ici, il n'y a pas d'autres condamnés, tu as renvoyé les soldats, nous savons tout cela, laisse-nous entrer.
Enfin, ne restez pas longtemps, voici la clé, c'est la troisième porte, prévenez-moi quand vous partirez, il est tard et je voudrais me coucher. Le bon vieux leur remit une clé de fer battue qui pendait à sa ceinture et les deux petites vierges coururent aussitôt sur leurs sandales silencieuses à travers les couloirs obscurs. Puis le geôlier rentra dans sa loge et ne poussa pas plus avant une surveillance inutile. La peine de l'emprisonnement n'était pas appliquée dans l'Égypte grecque et la petite maison blanche que le doux vieillard avait mission de garder ne servait qu'à loger les condamnés à mort. Dans l'intervalle des exécutions, elle restait presque abandonnée. Au moment où la grande clé pénétra dans la serrure, Rhodis s'arrêta à la main de son amie.
Oh, « Je ne sais pas si j'oserai la voir, dit-elle. Je l'aimais bien, Myrto. J'ai peur. Entre la première, veux-tu »
Myrtocléia poussa la porte. Mais dès qu'elle eut jeté les yeux dans la chambre, elle cria.
« N'entre pas, Rhodis. Attends-moi ici. »« Oh, qu'y a-t-il ? Tu as peur aussi ? Qu'y a-t-il sur le lit ? Est-ce qu'elle n'est pas morte ?
Si, attends-moi, je te dirai. Reste dans le couloir et ne regarde pas. » Le corps était demeuré dans l'attitude délirante que Démétrios avait composée pour en faire la statue de la vie immortelle. Mais les transports de l'extrême joie touchent aux convulsions de l'extrême douleur. Et Myrtocléia se demandait quelle souffrance atroce, quel martyr, quel déchirement d'agonie avait ainsi bouleversé le cadavre. Sur la pointe des pieds, elle s'approcha du lit. Le filet de sang continuait à couler de la narine diaphane. La peau du corps était parfaitement blanche. Les bouts pâles des seins étaient rentrés comme des nombrils délicats. Pas un reflet rose n'avivait l'éphémère statue couchée, mais quelques taches couleur d'émeraude qui teintaient doucement le ventre lisse signifiaient que des millions de vies nouvelles germaient de la chair à peine refroidie et demandaient à succéder. Myrtocléia prit le bras mort et l'abaissa le long des hanches. Elle voulut aussi allonger la jambe gauche, mais le genou était presque bloqué et elle ne réussit pas à l'étendre complètement.
Rhodis, dit-elle d'une voix trouble, viens. Tu peux entrer maintenant. »
L'enfant, tremblante, pénétra dans la chambre. Ses traits se tirèrent, ses yeux s'ouvrirent. Dès qu'elles se sentirent deux, elles éclatèrent en sanglots dans les bras l'une de l'autre indéfiniment.
« La pauvre Crisis ! La pauvre Crisis !» répétait l'enfant.
Elles s'embrassaient sur la joue avec une tendresse désespérée où il n'y avait plus rien de sensuel, et le goût des larmes mettait sur leurs lèvres toute l'amertume de leurs petites âmes transies. Elles pleuraient, elles se regardaient avec douleur, et parfois elles parlaient toutes les deux ensemble d'une voix enrouée, déchirante, où les mots s'achevaient en sanglots.
« Nous l'aimions tant. Ce n'était pas une amie pour nous, pas une amie, c'était comme une mère très jeune, une petite mère entre nous deux. »
Rhodis répéta, « comme une petite mère. » Et Myrto, l'entraînant près de la morte, dit à voix basse, « Embrasse-la. » Elles se penchèrent toutes les deux et posèrent les mains sur le lit et, avec de nouveaux sanglots, touchèrent de leurs lèvres le front glacé. Et Myrto prit la tête entre ses deux mains qui s'enfonçaient dans la chevelure, et elle lui parla ainsi. « Chrysis, ma Chrysis, toi qui étais la plus belle et la plus adorée des femmes, toi, si semblable à la déesse que le peuple t'a prise pour elle, où es-tu maintenant? Qu'a-t-on fait de toi? Tu vivais pour donner la joie bienfaisante. Il n'y a jamais eu de fruit plus doux que ta bouche, ni de lumière plus claire que tes yeux. Ta peau était une robe glorieuse que tu ne voulais pas voiler. La volupté y flottait comme une odeur perpétuelle. Et quand tu dénouais ta chevelure, tous les désirs s'en échappaient. Et quand tu refermais tes bras nus, on priait les dieux pour mourir. » Accroupi sur le sol, Rhodis sanglotait. « Chrysis, ma Chrysis, poursuivit Myrtocléia, hier encore tu étais vivante et jeune, espérant de longs jours. Et maintenant, voici que tu es morte et rien au monde ne peut plus faire que tu nous dises une parole. Tu as fermé les yeux, nous n'étions pas là. Tu as souffert et tu n'as pas su que nous pleurions pour toi derrière les murailles. Tu as cherché du regard quelqu'un en mourant, et tes yeux n'ont pas rencontré nos yeux chargés de deuil et de pitié. » La joueuse de flûte pleurait toujours. La chanteuse la prit par la main. « Chrysis, ma Chrysis, tu nous avais dit qu'un jour, grâce à toi, nous nous marierions. Notre union se fait dans les larmes, et ce sont de tristes fiançailles que celles de Rhodis et de Myrtocléia. Mais la douleur plus que l'amour réunit deux mains serrées. Celles-là ne se quitteront jamais qui ont une fois pleuré ensemble. Nous allons porter en terre ton corps chéri, Chrysidion, et nous couperons toutes les deux nos chevelures sur la tombe. » Dans une couverture du lit, elle enveloppa le beau cadavre. Puis elle dit à Rhodis, « Aide-moi. » Elles la soulevèrent doucement, mais le fardeau était lourd pour les petites musiciennes, et elles le posèrent sur le sol une première fois. « Ôtons nos sandales, dit Myrto, marchons pieds nus dans les couloirs. Le geôlier a dû s'endormir. Si nous ne le réveillons pas, nous passerons, mais s'il nous voit faire, il nous empêchera. Pour demain, cela n'importe pas. Quand il verra le lit vide, il dira aux soldats de la reine qu'il a jeté le corps dans la basse fosse, comme la loi le veut. Ne craignons rien, Rhodée. Mets tes sandales comme moi dans ta ceinture et viens. Prends le corps sous les genoux, laisse passer les pieds en arrière, marche sans bruit, lentement, lentement. »